L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Nous sommes sur Radio Imo et Radio Territoria, effectivement, depuis l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, qui tient son salon ici à Villepinte. Et j'ai le plaisir d'accueillir un producteur. Oui, un producteur. Il faut parler d'agriculture parce que c'est vrai que la région Île-de-France regorge d'excellents produits et est une région aussi rurale. On l'oublie parfois avec évidemment Paris et sa proche banlieue, mais l'Île-de-France est aussi une grande région agricole. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir Christian Hubert. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, Christian Hubert. Alors, vous êtes agriculteur, producteur de légumes secs, de graines et d'huile dans les Yvelines. Voilà. Vous êtes un agriculteur, vous l'aviez dans la peau, quoi. Vous êtes né là-dedans, j'ai envie de dire.
Tout
génération,
à fait.
De génération en génération.
Oui, oui, oui. Mes parents étaient agriculteurs, tout comme mes grands-parents, donc depuis plusieurs générations.
Bon. Alors, vous êtes venu avec des produits, avec un certain nombre de légumes secs que vous produisez. Racontez-nous ce que vous produisez d'abord. Présentez-nous un peu vos produits.
Je vais déjà présenter l'exploitation. Donc, on est une exploitation de grande culture, on va dire classique, du grand bassin parisien. Donc, ça veut dire on produit avant tout du blé, du colza, de l'orge. Mm-hmm. Et depuis maintenant 4 ans, on s'est diversifié en produisant des légumes secs.
D'accord.
Alors, pourquoi on a produit des légumes secs ? C'est que du côté agronomique, plus on a de cultures différentes, mieux c'est pour le sol.
D'accord.
Et de plus, les légumineuses, c'est une nouvelle famille qu'on ne produisait pas actuellement. Donc, point de vue... pour enrichir le sol, pour limiter finalement le salissement des parcelles par des mauvaises herbes et pour éviter les maladies des plantes récurrentes, ça a vraiment un grand atout.
Il faut faire ce mélange quoi,
de
variétés.
Plus on fait de rotations longues, donc plus on cultive de cultures différentes sur la ferme, mieux c'est. Et donc les légumes secs, voilà, donc côté agronomique, c'est très très positif. Côté environnemental, ça apporte beaucoup de biodiversité finalement à notre région.
Là, c'est que du bio, là.
Non, 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 non. Il y a du bio, mais il n'y a pas que du bio. Il y a également de la lecture de conservation du sol. Il y a aussi des personnes qui exploitent en lecture de précision. Non, non, ce n'est pas que du bio.
Ce n'est pas que du bio. Bon.
Et donc...
Ce qui est intéressant quand même, c'est que... Enfin, moi, j'ai été surpris, d'ailleurs, quand j'ai découvert ça tout à l'heure, c'est que je ne savais pas qu'on produisait des lentilles, par exemple, dans les Yvelines. Pour moi, c'était les lentilles du Puy. Eh bien non, il y a des lentilles dans les Yvelines.
Tout à fait, donc il y a des lentilles dans les Yvelines et on a un terroir qui s'y prête.
Ah bon ?
Donc d'une part, elles poussent et en plus, elles sont bonnes. Donc c'est vraiment à goûter.
Alors donc, présentez-nous là les sachets que vous avez devant vous, alors, concrètement.
Oui, donc aujourd'hui, donc, on cultive la connue, donc c'est la lentille verte. Donc c'est la première lentille que nous consommons, donc c'est une lentille verte. Après, on cultive également de la lentille rose, de la lentille blonde et de la lentille noire. Donc, ils sont consommés à moins grande quantité, mais on les cultive aussi. Mm-hmm. À savoir que la lentille rose, quand on la décortique, on obtient la lentille corail.
Ah donc, oui, c'est la fameuse lentille corail.
Voilà,
oui.
Dont on a enlevé l'enveloppe.
D'accord.
De la même manière, si on décortique la lentille verte, nous obtenons la lentille jaune.
D'accord.
Voilà. Donc, finalement, hop là. C'est deux lentilles décortiquées, donc c'est une autre utilisation. Lentille entière, on la consomme plutôt en entrée ou en plat du jour.
D'accord.
Les lentilles décortiquées, donc c'est plutôt en soupe ou en dalle. Ça cuit très rapidement en 3 minutes et c'est vraiment un autre type de produit.
Alors, ce qui est intéressant dans ces légumes secs que vous produisez, c'est que non seulement vous produisez vous sur votre exploitation, mais que d'autres producteurs n'avaient peut-être pas l'envie ou les moyens matériels... de mettre en sachet et de vendre et vous les aider là-dessus.
Tout à fait. Donc, on est aujourd'hui un groupement de 30 producteurs des Yvelines qui cultivons justement ces légumes secs. Donc, chacun en cultive un peu. Donc, nous, on récupère finalement leur production, on les nettoie, on les ensache et après, on s'occupe de tout ce qui est commercialisation, de ce que chaque ferme ne vende pas.
D'accord.
Parce que parmi nos 30 producteurs, nous avons beaucoup de fermes qui ont des boutiques à la ferme et qui redistribuent finalement leurs lentilles.
Christian Hubert, ça représente beaucoup de tonnes par an. Je parle de tonnes, je ne sais pas si on peut parler en tonnes.
Si, on parle en tonnes. On est à peu près à 200 tonnes actuellement de légumes secs produits par an.
200 tonnes.
200 tonnes. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que les producteurs sont intéressés d'en faire. Donc, on est prêt finalement à en produire plus si la demande est là.
Dites-moi, est-ce que l'on vit bien en produisant justement, par exemple, des lentilles ou des pois chiches dans les Yvelines ?
Oui.
Est-ce que l'on vit bien ? Parce que c'est le problème du revenu agricole est un problème récurrent. Hein.
Tout à fait. Alors oui, c'était l'objectif numéro un et c'est pour ça qu'on s'est lancé la création de cette filière. On a quatre valeurs. Première valeur, on veut que ce soit les légumes secs, des produits locaux. Donc c'est 100% des Yvelines. Deuxième valeur, on veut que ce soit équitable. Ça veut dire qu'on veut que les agriculteurs vivent bien finalement avec ce produit. Donc là, parmi les 30 agriculteurs, si vous les contactez, ils vous diront tous qu'ils sont bien rémunérés. Juste pour comparer, aujourd'hui, on paye aux producteurs, ils se payaient 1,50€ le kilo. C'est quasiment le prix qu'on peut retrouver la lentille la moins chère en grande surface.
Ah oui.
Donc voilà, donc une grande partie revient finalement aux producteurs. Les autres valeurs de notre groupement, c'est des méthodes vertueuses pour l'environnement. Qu'est-ce que j'appelle méthode vertueuse pour l'environnement ? Donc, il y a évidemment le bio, mais je n'en parle pas parce que tout le monde en parle beaucoup. Il y a la conversion bio. Il y a 3 années qui sont très compliquées pour tous les producteurs qui sont en bio.
Oui. Donc, il faut en moyenne 3 ans pour que le terrain, par exemple, de culture, retrouve son côté sain.
Il faut 3 ans pour que les parcelles ont la certification bio. Oui. Donc, pendant ces 3 ans, c'est très compliqué pour les producteurs. Donc, on les aide finalement à...
Vous les accompagnez, vous les soutenez. Quoi.
Tout à fait. Mmh. On a également tous ceux qui cultivent selon les méthodes d'électeurs de conservation des sols. Donc c'est une méthode qui respecte les sols, qui évite de tuer finalement la vie dans le sol et qui évite de trop bouleverser la terre pour éviter les problèmes d'érosion.
D'accord.
Je vais rapidement. Il y a également aussi toutes les personnes qui utilisent les méthodes d'électeurs de précision. L'électeur de précision, c'est quoi ? C'est on écoute la plante grâce aux moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, soit par satellite, soit par capteur.
On écoute la plante ?
On écoute la plante et on adapte finalement son besoin au quasiment mètre carré près.
Donc si la plante manque d'eau, par exemple, vous allez l'entendre grâce au satellite, c'est énorme.
Alors l'eau n'est pas forcément un bon exemple parce qu'on n'irrigue pas.
Bon.
Mais on va dire faim. Si la plante a faim à un endroit donné, on saura l'interpréter, on pourra lui donner plus à manger pile à cet endroit. Et 10 mètres plus loin, si elle n'a pas faim, on ne va pas remettre d'aliments pour nourrir ces plantes. Voilà, donc c'est vraiment des techniques qui sont accessibles, qui coûtent cher, mais qui sont pour moi vertueuses pour l'environnement.
D'accord.
Enfin, les autres caractéristiques de nos groupements, donc c'est la certification. Donc soit ils sont certifiés ISO 14001, c'est du management environnemental de nos entreprises. Ça veut dire qu'on met l'environnement au cœur de l'exploitation agricole et on fait de progrès continu en environnement.
D'accord.
Et enfin, la dernière certification, c'est le HVE. J'en parle pas non plus parce que c'est très connu, c'est la haute valeur environnementale prônée par l'État.
Alors dites-moi, Christian, on a parlé de ces légumes secs. Mais vous faites aussi de l'huile de colza.
Oui, depuis 15 ans maintenant.
Ouais.
Donc c'était la première diversification. La région Île-de-France est un grand producteur de colza. Et ça m'a arraché le cœur, finalement, de produire de colza pour l'envoyer à l'autre bout du monde. Et donc, du coup, on l'écrase depuis maintenant 15 ans pour extraire d'un côté l'huile, donc qui est ici. Et de l'autre côté, on obtient 2/3 d'un produit qu'on appelle le tourteau. C'est riche en protéines et c'est la base de l'alimentation animale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, la France, manque cruellement de cette protéine végétale pour les animaux, de tourteau.
Et le donc tourteau, c'est le déchet, en fait, de la plante.
Non.
C'est ce qui reste de la plante après...
Oui, mais c'est plutôt le produit principal.
Ah bon ?
C'est de la protéine, on en manque, on importe massivement du tourteau de soja américain. Selon les méthodes qu'on ne veut pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans les explications, mais voilà. L'huile, je vais peut-être être un peu violent, je serais tenté de dire, c'est presque l'huile qui est le déchet, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On en a trop, finalement, en Europe, en France. Par contre, il y a une multitude de débouchés. Comme je vous disais, ça fait 15 ans que je fais de l'huile au colza, mais ça fait seulement 3 ans que je vends de l'huile alimentaire.
Ah oui, d'accord. Et comment on explique ça, alors ?
Pourquoi ? Parce que je n'avais pas le ressenti qu'il y avait une demande en huile colza alimentaire et que finalement l'œuf répondait finalement.
Mais ça veut dire que l'huile que vous faisiez jusque-là servait à quoi ?
Alors jusqu'à présent, je la vends dans des bâtiments sur Paris qui veulent être à énergie positive. Donc mon huile, je le vends sur Paris dans des bâtiments à énergie positive pour fabriquer l'électricité. Donc ça va en cogénération, ça fait de l'électricité. Mais quand on fabrique l'électricité, ça dégage la chaleur. Donc il récupère la chaleur pour chauffer le bâtiment.
D'accord. Voilà.
En plus, ils mettent des panneaux solaires et donc ces bâtiments sont totalement indépendants.
Donc ça, il y a des bâtiments à Paris qui utilisent ce procédé-là.
Oui, il y a de nombreux bâtiments. Donc c'est essentiellement Bouygues qui construit ce type de bâtiment et ça fonctionne très bien. Donc il y a plusieurs bâtiments en région parisienne. L'autre débouché que j'ai pour l'huile, c'était en huile de démoulage. Oui, de démoulage
quoi,
de béton.
De béton.
Donc oui, quand on construit des bâtiments essentiellement en béton, il y a une sorte de coffrage pour délimiter. Peut-être que le coffrage colle finalement au béton. On utilise de l'huile de colza.
D'accord. Voilà. Et donc, jusque-là, jusqu'il y a 3 ans, vous vendiez votre huile pour ce genre de pratique.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de la mettre en bouteille pour les consommateurs?
Donc, c'est grâce à mon aventure Légumes Secs, où j'ai rencontré finalement des acteurs de la restauration qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par l'huile de colza de première pression à froid.
D'accord.
Donc c'est une huile de première pression à froid, ça veut dire on prend la graine, on l'écrase, on prend l'huile qui vient. Donc elle a un goût, une couleur, une odeur. Donc on est très proche d'une huile un peu d'olive, donc c'est vraiment une huile de haut niveau.
Alors Christian, y a quand même quelque chose qui est très important dans votre aventure aussi, c'est que vous avez décidé à un moment de travailler avec une entreprise française que l'on connaît bien dans la restauration collective, qui s'appelle Sodexo. Concrètement, avec Sodexo, comment vous travaillez? Que deviennent vos produits? Racontez-nous.
Voilà, donc là, c'est une aventure très intéressante à expliquer. C'est le département des Yvelines, avec Sodexo, qui ont créé un contrat tripartite entre le producteur et le conseil général, qui souhaitait fournir ses collèges en produits locaux.
Oui.
Et donc finalement, c'est grâce à l'impulsion donc, de Sodexo et du conseil général des Yvelines que l'aventure Légumes Secs s'est créée, puisqu'ils nous ont donné des signaux, ils se sont engagés sur des quantités qui nous a permis de dire aux producteurs, allez-y, aujourd'hui la Sodexo est prête à acheter finalement nos légumes secs. Et c'est grâce à eux, donc je crois qu'on peut leur dire un grand merci, qu'aujourd'hui, Huile Rip et Versailles en est où il en est aujourd'hui.
Donc ça veut dire, par exemple, quand on parlait du revenu des producteurs tout à l'heure qui vivent plutôt bien, cet engagement, ce contrat avec Sodexo, ce contrat, j'ai envie de dire, tripartite, puisqu'il y a vous, il y a le département, il y a Sodexo, est tout à fait bénéfique pour vous, quoi.
Tout à fait. Alors, il est bénéfique pour nous, mais il est surtout bénéfique
pour
aussi
les enfants qui consomment.
Voilà, pour les enfants qui consomment. Vous aurez l'occasion de goûter nos lentilles, vous verrez, donc elles sont
avec
succulentes.
Plaisir.
Et surtout à son méthode que les Français veulent.
Oui.
Donc, l'agriculture française est quand même très vertueuse. Nos agriculteurs sont très soucieux dans leur méthode de production. Donc, on a vraiment un haut niveau. Aujourd'hui, tous nos produits sont... on fait des analyses, on est en zéro résidu de pesticides.
Oui.
Voilà, donc, on n'est pas forcément bio, mais on est en zéro résidu. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Voilà, donc c'est sain, c'est local. Et côté biodiversité, c'est important de multiplier le nombre de cultures. Donc le fait de faire des cultures comme les légumineuses à côté d'où on habite, c'est vraiment très, très positif.
Bah oui, on est dans ce fameux moment des circuits courts qui, je l'espère, va durer maintenant dans le temps, parce que c'est vrai qu'on est en attente de produits de qualité. Donc,
voilà, donc on est en attente de produits de qualité à manger. Mais aussi, on vit aussi dans les Yvelines ou en région parisienne, et donc c'est important qui est le maximum de culture pour les abeilles, pour toute la flore. Il ne faut pas qu'il n'y ait qu'une seule culture qui ait que du blé et que du maïs.
Oui.
Et du colza. Voilà, donc colza, plus il y a de culture, mieux c'est à tous les niveaux, aussi bien pour les habitants que pour nous, évidemment, agronomes.
Merci beaucoup, Christian Hubert, d'être venu nous parler de votre métier et puis de vos fabuleux produits, des lentilles, des pois chiches, de l'huile de colza dans les Yvelines. C'est magnifique.
Voilà.
Voilà.
Un grand merci. Donc, à déguster, évidemment, dans nos collèges. Demain, ouais, j'espère bien, dans nos lycées.
Mais dans les épiceries, on les trouve.
Voilà. En épicerie fine et dans vos meilleurs points de vente. Donc, n'hésitez pas de réclamer huile et légumes secs de Huilerie Plaine de Versailles.
Eh ben voilà.
À vos distributeurs.
Merci, en tout cas, d'être venu sur Radio Territoria et Radio Immo pour nous présenter tous ces bons produits et la manière dont vous, justement, les cultivez. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Territoria et Radio Immo.
La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 30 juin et 1er juillet 2021, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.